RCF.
On enfile les bonnes chaussettes, les chaussures de rando, on met le short et la petite chemise et on grimpe en montagne aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Cédric Fraissinet.
Bonjour Vanessa.
Vous êtes responsable d'un groupe de scouts unitaires de France dans le bassin annécien, couple responsable avec votre femme, un groupe SUF dans lequel est votre fille. On va parler de la manière dont le scoutisme a irrigué toute votre vie. Finalement, on va le voir et même un changement radical au niveau professionnel. Je garde le suspense, je ne dis pas à nos auditeurs ce que vous faites aujourd'hui. Cédric Fraissinet, dans quel univers familial et religieux vous avez grandi ?
Alors, je suis l'aîné d'une fratrie de trois. J'ai une petite sœur et un petit frère. Je suis né en Suisse dans une famille protestante, réformée, hein, calviniste. Du côté de ma mère, un grand-père pasteur. Et du côté de mon père, une famille huguenote, marseillaise, d'entrepreneurs. Donc une famille avec une spiritualité réformée, forte, un sens du travail, de la valeur travail, de la réussite économique. Hein, et puis une famille avec une tradition militaire aussi importante et probablement un sens de l'aventure et de servir.
Ce sens de l'aventure, il a été cultivé chez vous. Je crois que vous avez été marqué par des livres un petit peu scouts qui vous ont fait rêver quand vous étiez enfant, ado.
Ah oui, alors il y a deux collections que j'ai lues enfant complètement. Il y avait d'une part le Club des Cinq, Bibliothèque Rose, et les Signes de Piste. Signes de Piste sont les romans de Jean-Louis de Foncine. Les plus emblématiques, c'est la série des aventures du prince Éric, illustré par Pierre Joubert. Pierre Joubert qui a été un illustrateur dont les dessins existent encore dans l'imaginaire scout. Voilà, et donc j'ai vécu en suivant les aventures de ces garçons avec un sens de la camaraderie, de la fraternité très forte, de la nature, du dépassement, de l'héroïsme. Et en Suisse, j'étais dans une région où il y avait peu de scoutisme, donc c'était vraiment, je vivais ça par procuration. Et puis quand on est arrivé en France, à Chambéry, là j'ai eu la grande joie de rejoindre les scouts d'Europe. Alors, j'y suis pas resté très longtemps, mais enfin, je vivais ce que j'avais lu pendant des années.
Et alors, côté foi, est-ce que vous avez été marqué ? Vous dites qu'il y avait cette forte tradition protestante, les valeurs. Est-ce qu'il y avait aussi tout le côté pratique religieuse ?
Oui, alors complètement. Complètement, mais très vite dans un monde œcuménique. Parce qu'une partie de la famille est aussi catholique, enfin est catholique. Donc très vite j'ai vécu dans un monde œcuménique. Je crois que le mon père est catholique et donc le couple de mes parents déjà était très œcuménique. Et puis adolescent. Et puis après tout le reste de ma vie de jeune adulte, mes amitiés, les cercles dans lesquels j'ai vécu et plus tard mon couple, ma femme, étaient dans un monde catholique pratiquant. Donc j'ai vécu vraiment un pied dans les deux spiritualités pendant des années.
Comment ça forge, comment ça nourrit, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective par rapport à la chrétienté ?
Alors quand on est protestant dans un monde de catholiques, ce qui était un peu mon cas à partir de l'adolescence, et chez les scouts d'Europe par exemple, j'étais un peu un électron libre, un protestant chez les scouts d'Europe, ça donne un grand sens de la liberté, parce qu'on se sent un peu sur un strapontin et on regarde. Et c'est pas forcément ce que je souhaite à tout le monde. Moi, ça m'a permis de questionner et de construire ma foi par la question. Je vais rentrer très vite là dans les semaines qui viennent en pleine communion avec l'Église catholique. C'est un chemin qui a duré depuis mon adolescence. Donc le questionnement m'a amené à embrasser la foi et la spiritualité de l'Église. Mais pendant longtemps, je me suis construit en essayant de comprendre, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de chercher à comprendre. Et il fallait que je suive mon cœur.
En essayant de comprendre pourquoi, finalement, il y avait eu ce schisme qui avait créé deux églises à partir d'une seule.
Je ne crois pas que je me sois posé la question dans ces termes-là. Je crois que les questions que je me posais, c'est où est la vérité ? Quel est le chemin le plus juste ? Le père Maurice Zindel, il a une phrase fantastique, hein, Dieu est une rencontre au plus intime de soi. Donc je crois que le chemin, il est intimement personnel. Dieu a une grâce différente pour chacun. J'étais bouleversé par les conversions de Saint Ignace, de Saint Augustin, Saint François d'Assise. Hein, ces chemins, Saint François de Sales, Annecy, c'est toutes ces histoires d'hommes qui sont touchés au plus intime d'eux-mêmes par quelque chose qui les bouleverse et qui les amène au Christ. Et je trouve que l'Église a ce chemin magnifique.
Et vous parlez d'une recherche de vérité. Parlons vocation et profession aussi. Vous avez suivi un parcours d'études finalement assez classique, hein, commercial, qui vous a amené à travailler dans de grandes entreprises avant un jour de claquer la porte pour faire un choix de carrière radical. À quel moment vous vous êtes dit « c'est pas ma vocation » ?
Injonction familiale, hein, plus ou moins consciente, de la réussite entrepreneuriale, donc école de commerce, grandes entreprises, Unilever, Nestlé. Et à côté de ça, depuis très longtemps, j'étais passionné par le monde du secours, de l'urgence. Quand j'étais scout, j'étais le secouriste de ma patrouille, donc j'étais très fier de ce poste d'action. Plus tard, j'ai été, à partir de 16 ans, pisteur secouriste, bénévole à Courchevel. J'ai fait ça pendant 12 ans, donc je passais mes week-ends et mes vacances d'hiver sur les pistes de ski, faire du secours en montagne, très exaltant. Et puis quand ma vie de jeune professionnel m'a amené à Paris, j'ai découvert que je pouvais avoir le même type d'engagement dans la protection civile, en prenant des gardes dans les casernes des pompiers de Paris ou pour le compte du SAMU ou de la préfecture de police. Donc un vrai engagement de service sur le terrain, dans un cadre opérationnel très exaltant. Et assez vite, j'ai senti une tension entre ces gardes et cette vie que j'avais les week-ends en général, et ma vie professionnelle. Maintenant, je peux le dire, il y a prescription, mais en effet, je commençais mes gardes en général le vendredi soir à 19h. J'enchaînais souvent des gardes de nuit et des gardes de jour le dimanche après. Donc, j'étais très fatigué. Et donc, j'allais me cacher dans les étages supérieurs des bureaux de Nestlé et j'allais dormir dans les toilettes le lundi parce qu'il fallait que je récupère de mes nuits de garde. Donc, ça fait partie de cette tension qui m'a poussé à aller chercher ce que j'avais au fond de moi et à faire ce discernement. Alors, je crois qu'on progresse beaucoup par crise, donc une tension douloureuse, mais qui m'a poussé à remettre en question ce moule dans lequel j'étais rentré pour finalement décider de quitter Nestlé. Alors, quand vous êtes dans une grande entreprise comme ça, des grandes marques, etc., vous avez l'impression que le salut n'existe pas ailleurs. Donc c'était un vrai choix. Et pour rentrer dans l'entreprise familiale, créée par mon grand-père, une PME savoyarde qui exploite des hélicoptères et qui fournit des services de secours en montagne, de lutte anti-incendie, de SAMU héliporté, dans laquelle je suis rentré et dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans à différents postes. Mais voilà, à 30 ans, je réduis mon salaire, je change de vie, je déménage et je réapprends un métier complètement nouveau.
Changement de vie, changement de région pour retrouver finalement toutes les valeurs qui vous animaient plus jeune, l'aventure, le secours que vous n'avez jamais finalement quitté, les grands espaces, la nature.
Bon, c'est toujours facile de relire a posteriori, hein, mais je crois que je cherchais, sans trop le savoir à l'époque, trois éléments. Il y a le lien humain qu'on a dans des métiers opérationnels où les enjeux sont des enjeux majeurs.
Et vitaux, en l'occurrence.
Et vitaux, exactement. La sécurité d'un équipage, c'est quelque chose de... c'est un enjeu absolu. La notion de service, j'en avais besoin aussi. Et puis, en effet, vous avez raison, cette dimension de l'aventure dans des théâtres très opérationnels sur le terrain était quelque chose qui faisait partie de moi depuis très longtemps.
Et aujourd'hui, vous continuez dans la même veine, hein. C'est un choix que vous avez fait à 30 ans qui vous a pas quitté. Vous travaillez aujourd'hui dans une entreprise qui s'appelle International SOS où vous continuez l'aventure, le rapatriement, le secours.
Oui, alors je suis à des fonctions qui sont beaucoup moins opérationnelles, mais en effet, International SOS, le métier de... c'est un groupe très grand, peu connu du grand public parce qu'il ne travaille que pour des entreprises, donc en business to business. C'est le leader mondial de la gestion du risque médical et sûreté. Nous accompagnons les employeurs dans la protection de leurs collaborateurs à l'étranger, au plan médical et au plan de la sûreté. Donc on accompagne des gouvernements, des grandes ONG, des organisations internationales, les Nations Unies, des entreprises de toute taille, des grands groupes et des petites entreprises, dans la prévention de ces risques-là. Et nous assistons leurs collaborateurs quand le problème intervient. Il intervient toujours d'une manière ou d'une autre. Et on est aujourd'hui toujours un des plus grands transporteurs de patients dans le monde. On fait des milliers d'évacuations médicales par an. On gère 4 millions de cas d'assistance médicale et sûreté par an. Les crises récentes, le Niger, le Soudan, on a fait un grand nombre d'évacuations sûreté dans des conditions opérationnelles très complexes. Voilà, notre métier, c'est ça.
Cédric Fraissinet, on parle de votre parcours de foi, de votre parcours de vie aujourd'hui dans les studios de RCF à Annecy. Vous habitez ici, même si votre activité professionnelle vous envoie voyager dans tout le bassin, en Suisse, en Italie et en Allemagne. Avec votre femme, vous êtes aujourd'hui responsable d'un groupe de scouts unitaires de France. Alors d'abord, vous nous avez dit que plus petit, vous aviez été chez les scouts d'Europe, alors que vous étiez dans une famille protestante. Comment les scouts unitaires de France sont arrivés à vous ? Comment vous êtes arrivé aux scouts unitaires de France ?
Le comment, c'est ma femme Caroline qui a eu l'idée la première. Les mandats de chef de groupe qui sont responsables d'un groupe de différentes unités, louveteau, Jeannette, guide, éclaireur, routier et guide aîné, les chefs de groupe ont des mandats de 3 ans. Et donc quand il a fallu trouver des chefs de groupe nouveaux, l'idée a d'abord germé chez ma femme. 2 ans et demi après, je serais incapable de formuler concrètement pourquoi on a décidé de prendre cet engagement.
Votre fille, vous aviez décidé pour le coup, quelques années auparavant, de l'inscrire chez les scouts et de lui faire vivre du scoutisme.
Oui, dans le contexte, absolument, notre fille Chloé était guide dans ce groupe-là. Je crois que le raisonnement de l'époque, mais c'est étonnant de ne pas arriver à le reformuler 2 ans après, le raisonnement de l'époque était probablement autour de « c'est une belle mission, c'est beau de s'engager pour aider la jeunesse à grandir, c'est une mission qui nous sortira aussi de notre routine très matérialiste, et puis c'est un moment, où, c'est une mission dans laquelle on pourra partager plus avec notre fille. » Mais ce que je vous dis là est un peu flou. Je crois qu'en fait, en relisant a posteriori, je crois que c'est la grâce, je crois que c'est un appel. Et ce que l'on vit aujourd'hui est totalement différent de ce qu'on avait anticipé. C'est un engagement absolument magnifique, c'est un engagement qui est bouleversant. Les scouts unitaires de France ont une pédagogie d'une profondeur, d'une richesse magnifique. Et ce que l'on vit dans notre mission est quelque chose d'extrêmement beau. Donc je crois vraiment, en relisant a posteriori, que c'était un appel dont on n'a pas du tout mesuré l'ampleur.
Et pour qu'on comprenne mieux ce que vous vivez, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quoi ça consiste et du coup comment ça vous nourrit ?
La mission du couple de chefs de groupe, c'est d'accompagner pendant 3 ans les chefs d'unité, c'est-à-dire des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont en charge des enfants ou des jeunes, des adolescents. Et nous les accompagnons dans cette mission de grands frères, de grandes sœurs, de gérer ces unités. C'est une mission, la mission de chef de troupe, de chef-taine de compagnie ou de chef-taine de meute, c'est une mission magnifique, exigeante, et qui est confiée à des jeunes au début de leur vie d'adulte. Voilà, et nous les accompagnons dans ce cheminement de quelques années pour eux. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'organiser des activités, de faire vivre l'aventure à des enfants ou à des adolescents. C'est aussi une mission où on a charge d'âme.
Et responsabilité forte, hein.
Une responsabilité opérationnelle très forte, mais charge d'âme. La pédagogie SUF consiste à faire grandir l'enfant ou le jeune dans toute sa dimension. Le cœur, le corps, l'esprit, l'âme, tout ça à travers le jeu, l'aventure et dans la nature. C'est très rare dans une vie, en dehors d'être parent ou peut-être guide spirituel, donc prêtre, religieux, c'est très rare d'avoir charge d'âme. Et c'est très beau de voir des jeunes adultes prendre à bras le corps cette mission de faire grandir l'âme des garçons et des filles qui leur sont confiés. Alors dans un cadre très structuré, avec une pédagogie très, très, très élaborée, et voilà, et nous les accompagnons dans cette mission-là.
Et alors vous nous disiez, on ne s'attendait pas à ce que ça nous bouleverse, ça nous touche, et à vivre cette mission d'accompagnement de ces jeunes qui ont charge d'âme de cette manière-là avec ma femme. Comment ça vous nourrit spirituellement? Qu'est-ce que ça crée en vous?
D'abord, je crois qu'on est émerveillé par la force d'âme des jeunes qui nous sont confiés. Ces chefs, ces jeunes adultes font preuve d'un engagement avec une gratuité totale, d'un engagement, d'une espérance. Ils ont une bienveillance pour les garçons et les filles qui leur sont confiés qui est remarquable. Moi, je prends des leçons de bienveillance au contact de ces jeunes. Et une foi qui est vivante, qui est concrète, qui est décomplexée, qui est joyeuse et qui nous fait énormément de bien. On est bouleversé par la beauté avec laquelle ces jeunes vivent leur engagement. Et je crois que c'est la première chose qui nous a touchés. Ils nourrissent notre espérance. Notre espérance et ça nous rend très optimistes sur ce que le monde va devenir quand on voit une jeunesse comme celle-là. C'est très très beau. Ensuite, la mission de... Quand vous avez charge d'âme, parce que nous avons charge d'âme pour le groupe et pour ces chefs qui nous sont confiés, eh bien, il faut aller regarder ce qu'on a au fond de soi. Le costume nous paraît beaucoup trop grand, hein. Donc il faut aller regarder ce qu'on a au fond de soi pour voir ce qu'on peut transmettre. Et ça force à accélérer son cheminement spirituel. Cet engagement a donné à notre couple, à notre famille, une dimension spirituelle beaucoup plus forte. Et on avait totalement sous-estimé cette dimension-là. Ça a vraiment accéléré. Et si je rentre en pleine communion avec l'Église catholique très vite, là, c'est en grande partie grâce au scoutisme. Alors, petite parenthèse, c'est atypique chez les scouts unitaires de France d'avoir des chefs de groupe qui sont protestants. C'est même extrêmement rare. Ça a fait l'objet d'un discernement, d'une vraie réflexion avec la direction nationale du mouvement pour s'assurer qu'évidemment, la dimension spirituelle de notre mission serait assumée en plein accord avec la spiritualité catholique. Donc, c'était très important et on est arrivé à cette conclusion-là. Donc, ce n'est pas innocent si je rentre maintenant en pleine communion avec l'Église catholique, c'est parce que j'étais déjà pas très loin. Voilà, donc une dimension spirituelle extrêmement forte. Et puis, il y a dans le monde du scoutisme la communauté des enfants, mais il y a la communauté des parents. Le scoutisme, c'est une coéducation. C'est pas une activité extrascolaire, c'est vraiment de la coéducation. Et donc, ça nous a permis de découvrir un réseau d'amis. Et ça, je crois que c'est le propre des communautés chrétiennes avec lesquelles on partage très vite des valeurs très fortes. On est très heureux en fait de ces amitiés finalement très récentes et très profondes que l'on a réussi à créer.
Je suis de tes apôtres.
Témoin, quand la foi se raconte.
Cédric Fraissinet, scout dans l'âme, ce sera probablement le titre de cet entretien. On voit comment toutes les valeurs du scoutisme vous imprègnent depuis tout petit et ont continué à vivre dans votre parcours spirituel. Vous évoquiez donc cette décision importante que vous avez prise pour quelqu'un qui est né protestant, baptisé protestant, même si c'est un seul baptême, vivre la confirmation dans l'Église catholique. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Je crois que c'est avec mon mariage et la naissance de ma fille, un des trois moments les plus importants de ma vie. C'est le fruit de plusieurs années de discernement, de questionnement. J'ai conscience que c'est le début de certainement un chemin qui sera plein de joie. Et c'est une joie très profonde de finalement d'embrasser totalement une spiritualité qui me porte déjà beaucoup, mais d'embrasser totalement sans tout comprendre.
Concrètement, quelle nuance vous voyez entre ce protestantisme finalement de naissance, mais votre vie qui était déjà, voilà, vous le disiez, écuménique, et puis avec dans des cercles finalement catholiques, qu'est-ce que ça change de poser cet acte ?
Alors, l'acte de rentrer en pleine communion avec l'Église catholique n'est pas forcément un acte en opposition à mon chemin dans une spiritualité réformée ou calviniste. Je crois plutôt que c'est une conversion au sens de la conversion que le Christ nous demande de faire chaque jour. Parce que la vie m'a poussé à aller chercher ce que j'avais vraiment au fond de moi, et que sur ce chemin de discernement, comprendre ce que j'étais vraiment, sur ce chemin-là, j'ai senti, c'est une grâce, mais j'ai senti la présence. J'ai senti un amour inconditionnel. J'ai été touché par l'amour du Christ. Et il se trouve que cet amour m'a touché au cœur de l'Église.
À des moments bien, un moment peut-être bien précis ou...
Oui, il y a eu un moment qui était, on va dire, un espèce de révélateur. Et puis après, j'ai réalisé qu'en fait, le Christ, ça faisait des années qu'il me touchait. Mais il y a un moment qui était un révélateur. Je traversais un vrai questionnement très douloureux, existentiel, profond, sur quel était le sens profond de ma vie, sur ce que j'étais vraiment. Et ce sont des moments qui sont fondateurs. Et j'écoutais dans la voiture, en rentrant du bureau, un psaume chanté par les frères de Tamier, un psaume que j'avais écouté 1000 fois. Les psaumes, c'est magnifique, les psaumes, ça a été écrit, ça a été probablement chanté, récité il y a des milliers d'années. Hein, et, ça, c'est, et les psaumes, c'est vraiment la sédimentation de l'âme humaine. Et là, je l'ai ressenti tout d'un coup, chaque parole de ce psaume me parlait de moi. Très étonnant. Et là, j'ai tout d'un coup ressenti quelque chose de magnifique, un amour inconditionnel, quelque chose de pas vertical, d'horizontal, une bienveillance totale. Alors ça m'a poussé à réfléchir, ça m'a emmené à aller faire des exercices d'initiation, une initiation aux exercices spirituels de Saint Ignace, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer, et c'est un cheminement qui a duré plusieurs années. Mais j'ai compris a posteriori qu'en fait... À plusieurs reprises dans ma vie, j'avais déjà senti quelque chose du même registre.
Cet amour de Dieu, finalement.
Cet amour de Dieu. Et quasiment chaque fois, je l'ai senti au cœur de l'Église. Et puis, j'ai cheminé quelques années, et à l'occasion d'une messe emblématique, je n'ai pas été le chercher, hein, mais d'une messe emblématique, scout, pour l'anniversaire des 50 ans des SUF à Chambord, l'année dernière, la communion a été un moment bouleversant qui m'a touché très profondément. J'étais bouleversé par le Christ qui se donne à toutes ses âmes. C'est très spécifique chez les scouts, c'est que tout le monde est en uniforme. En uniforme, tout le monde est identique. Il n'y a plus que les âmes, il n'y a plus que les regards. J'ai été bouleversé de voir le Christ se donner de la même manière à chacun, quel qu'il soit. Ça a fini de me faire dire qu'il fallait que j'embrasse cette spiritualité absolument magnifique, qui est l'Église est magnifique et elle offre un chemin tellement juste sur les pas du Christ je n'avais plus, il ne fallait plus que je reste sur un strapontin et je pouvais embrasser totalement la spiritualité catholique.
Alors, le protestantisme a de très très belles choses aussi, tout cet aspect de travail de la parole qui a toujours été, alors que dans l'Église catholique il a été abandonné. Comment c'est pris par votre famille ?
C'est pris avec questionnement, mais aussi, je crois, beaucoup de compréhension, et cette spiritualité du cœur touche aussi. Donc c'est l'occasion de discussions que je n'ai jamais eues, et ça, c'est très beau.
Je vous ai vu témoigner avec humour et conviction de votre parcours auprès de lycéens dans un établissement catholique qui organisait une journée sur le thème « Comment faire de sa vie une aventure ?» Vous qui êtes chef scout, papa aussi, qui nous avez parlé de ces forts moments de questionnement spirituel, de parcours spirituel, qu'est-ce que vous avez le plus envie de transmettre aux jeunes aujourd'hui ?
Bon, ça, c'est une question extrêmement difficile parce que si je pense à ma fille, il y a tellement de choses que je voudrais transmettre. Donc, en une phrase ou quelques phrases, vous savez, moi, je suis la génération Jean-Paul II. Hein, il y a presque 25 ans, avec ma femme, nous n'étions pas encore mariés, nous ne nous connaissions pas, mais nous étions au JMJ à Rome. Et Jean-Paul II nous disait, donc c'est JMJ de l'an 2000, c'est pas 25 ans, mais presque, Jean-Paul II nous disait, chers jeunes, n'ayez pas peur de suivre le Christ. Waouh! J'ai pas aperçu évidemment toute la dimension de ce que ça voulait dire. Et plus récemment, j'ai compris, comme le dit Maurice Zindel, hein, que Dieu est une rencontre au plus intime de soi. Et que c'est en allant chercher ce qu'on a au plus intime de soi, ce qu'on est appelé à être en fait. Mais quand on regarde ce qu'on a au plus intime de soi, que on trouve le Christ et qu'on trouve sa vie, ou la vie de sa vie. Et donc c'est peut-être ça que je voudrais arriver à transmettre, c'est n'ayez pas peur d'aller regarder ce que vous êtes profondément, vos aspirations très profondes, vos passions et vos fragilités, de regarder ce que vous êtes, parce que c'est en faisant ça que vous... probablement vous trouverez le Christ si ce n'est pas déjà fait, et que vous pourrez être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, que vous pourrez vraiment rayonner et faire du bien. Le Seigneur plante des graines en permanence, et qu'il y a des moments de notre enfance ou de notre adolescence des années après, viennent nous parler et viennent ou se rappellent à nous, et nourrissent notre chemin encore très longtemps après.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager, Cédric Frayssinet, une joie de croire ?
Oui, alors je crois que pour moi, la joie de croire, c'est qu'on n'est jamais seul. Quand on croit, on n'est pas seul. Quand on croit, on a la joie de chercher la présence. Et Saint Augustin, la vie de ma vie. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus fort dans la joie d'un chrétien, c'est de chercher la présence de l'amour.
C'est pas toujours évident de vivre cette... Parce qu'il y a des moments dans la recherche où on peut se sentir, pour le coup, malheureusement seul ou avoir du mal à voir le bout du tunnel.
Saint Ignace, consolation et désolation. bien sûr, c'est très difficile. Il y a des moments extrêmement arides qui ont aussi leur utilité, qui sont fondateurs et qui sont peut-être un préalable à des moments de joie très profonds. Mais c'est la condition humaine, et c'est aussi ce que le Christ ou ce que l'Église nous transmet, mais ce que le Christ nous transmet, c'est que la souffrance est terrible, le mystère du mal est un mystère, mais on peut trouver une signification à la souffrance, et le Christ nous aide à trouver une lumière dans ces moments-là.
Eh ben merci beaucoup Cédric Frayssinet, on vous souhaite du coup beaucoup de joie dans la confirmation que vous allez vivre tout bientôt dans votre fin de mission de responsable chez les SUF. Très belle année scolaire à vous.
Merci beaucoup. Merci Vanessa.